Donc je vais vous parler effectivement d'histoire quantitative, enfin de kilométrie plus exactement. J'axerai mon propos sur quatre points. Alors tout d'abord, justement, comme c'est une discipline ou méthode d'enquête qui est peut-être relativement peu connue, je m'attarderai d'abord un peu sur les présupposés de la méthode. J'envisagerai ensuite le. Enfin, je dirais qu'il y a deux approches possibles, puisque j'ai tenté de coller au thème du séminaire, richesse et pauvreté, alors ça sous la pauvreté en l'occurrence. Il y aurait deux moyens je dirais, d'aborder par l'anthropométrie ce thème. Le premier, c'est de considérer que la stature moyenne est à elle seule un indice de. Bon, après, je déclinerai hein, les propositions, les périphrases qu'on peut prendre, un indice de malnutrition chronique. Notamment par rapport aux standards actuels, puisque les Français, les Européens en général, sont beaucoup plus grands aujourd'hui qu'autrefois, et que ça s'explique par des facteurs sociaux et non pas génétiques. Je reviendrai là-dessus. Donc, étudier la stature moyenne. Alors là, je ne sais pas si c'est vraiment utile d'ailleurs aujourd'hui, parce que je voudrais reprendre des conclusions de ma thèse. Je ne sais pas si c'est utile, ou sinon, on pourrait peut-être directement aller à des choses plus récente, je dirais. Et donc la deuxième approche, ce serait, et qui est plus récente aussi, pas uniquement dans mes recherches, mais à l'intérieur même de la discipline d'histoire anthropométrique, c'est d'analyser non pas la stature moyenne, mais les écarts éventuels qui entre la stature moyenne et, alors donc la stature des plus petits, enfin de telle ou telle proportion. La question, c'est de savoir justement quels indicateurs on prend. Hein, parce que là, il y a un problème, c'est on mesure une pauvreté relative, mais relativement à quoi? Donc interroger les distributions de la stature, étant donné que l'histoire anthropométrique repose, quand je dis encore repose, je n'en parlerai pas le passé, sur le postulat de la normalité de la distribution de la stature. Enfin, j'ai employé peut-être un petit peu des termes, enfin je vous montrerai des graphiques hein, pour expliquer ce que c'est que la normalité de la distribution, mais ce sont des hypothèses de construction de la discipline qui méritent d'être discutées. Et aussi on pourrait s'interroger sur une lecture de la loi de Kuznets par l'anthropométrie. Alors là aussi, c'est une loi économique qui a été énoncée dans les années 50 par Kuznets, et dont je reparlerai tout à l'heure, qui est très classique et qui peut être discutée. Donc interroger la question des dispersions autour de la moyenne entre groupes anthropométriques, entre professions, etc. Et puis, le dernier point, ce sera mettre en quelque sorte en relation les différents points précédemment évoqués et rapidement interroger l'impact de l'intégration au marché sur les inégalités. Puisque enfin, j'ai un peu simplifié la chose, mais je dirais que j'ai d'abord interrogé l'impact des inégalités sur l'évolution de la stature moyenne, et puis après faire l'inverse, enfin pas faire l'inverse, mais interroger l'impact des conditions économiques. Sur la diminution des inégalités au cours donc de l'intégration au marché, en évoquant notamment le rôle des chemins de fer, puisque c'est la grande question au XIXe siècle. Donc là, je parlerai essentiellement de la France, hein, puisque je m'appuie sur mes travaux. Alors, une remarque quand même par rapport au titre, qui était très ambitieux. j'ai mis fin 17e, je n'ai pas travaillé personnellement sur des archives fin 17e, hein, mais seulement à partir des années 1730. Donc ce sera plutôt fin 18e, début 20e. Et je voulais en profiter quand même aujourd'hui pour présenter les travaux de John Komlos, qui est un des grands spécialistes internationaux de la question et qui, lui, a travaillé sur la France hein, de la fin du XVIIe à la fin du XVIIIe siècle. Alors, pour ceux qui connaissent peu, oui, me positionner un petit peu, filiation intellectuelle. Donc l'histoire anthropométrique a été initiée. Alors c'était plutôt l'histoire anthropologique, hein, plutôt qu'anthropométrique, mais avait été initiée donc par Leroy Ladurie et ses disciples dans les années 70. Et je dirais que dans les thèses françaises, hein, ruralistes et autres, on trouve des analyses anthropométriques, anthropologiques dans les années 80, mais véritablement, la leçon a surtout été retenue par les anglo-saxons. Et je suis en quelque sorte un transfuge qui revient avec un petit peu les méthodes un peu plus kilométriques, des statistiques probabilistes qui sont développées donc entre-temps. Chez les anglo-saxons, enfin, on peut citer Fogel, Stekel ou Komlos. Alors, entre-temps, je dirais, entre les années 70 et nos jours, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, notamment, on a affiné l'approche et on sait mieux désormais traduire en termes économiques, démographiques, une stature moyenne. On sait mieux à quoi ça correspond. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vision un petit peu biaisée en quelque sorte de la chose parce que j'avais cru comprendre qu'il fallait que j'axe mon intervention sur les questions de richesse et de pauvreté. Donc je l'ai vraiment axé sur la perspective inégalité, mais enfin, notamment dans le livre là qui passe, il y a beaucoup d'autres facteurs d'ordre socio-économique, démographique qui influencent l'évolution de la stature moyenne. Donc là, je dirais, faut bien avoir conscience que ce sera une vision un petit peu partielle. De l'histoire anthropométrique. Oui, donc je disais, donc depuis les années 70, on sait beaucoup mieux interpréter la stature moyenne, parce que je pense que l'image d'Épinal qu'on a un peu tout près tous, donc comme je viens de Belfort, donc de l'Alsace, une petite caricature de Hansi, on pourrait partir du principe que de toute éternité, les Allemands sont des grands blonds aux yeux bleus et que les Français sont des petits bruns plus foncés de peau et plus au système pileux, plus développé aussi. Ça, on le retrouve dans la littérature anthropologique du 19e siècle sans problème. On le retrouve même au sein même de l'espace national. Mais en fait, si. Alors, au passage, ils sont en belle tenue de militaire, et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, voilà, très rapidement pour montrer à quoi ressemblent en général les sources de l'histoire anthropométrique, il s'agit de sources militaires. Donc l'avantage, c'est qu'on a. Alors là, c'est liste de tirage au sort, donc on a toute une classe d'âge qui fasse leur service ou pas. Donc c'est vraiment universel, enfin, ou quasiment, on va pas. On pourra en discuter tout à l'heure. Le gros des avantages, c'est que c'est exclusivement masculin. Or, il y a des différences d'évolution de la stature des hommes et des femmes quand on a des sources, et ces évolutions ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes, enfin bon, bref, là aussi pour des raisons qu'on pourra peut-être discuter tout à l'heure. Donc j'en reviens à mon affaire de génétique et de société. Eh bien, les Néerlandais sont aussi plus grands que les Français, grands, blonds, aux yeux bleus, mais ils ne l'ont pas toujours été. Et donc il y a bien du social là derrière. Donc là on voit l'évolution de la stature des Français, des Néerlandais comparée sur la longue durée. Et vous voyez que les Néerlandais sont effectivement beaucoup plus grands que les Français dès le début du XXe siècle, mais qu'ils étaient plus petits que les Français dans les années de naissance 1830-1840. Alors là, je vous montre un exemple, mais on pourrait multiplier les exemples. Les Chinois aujourd'hui deviennent très grands. Au XIXe siècle, ils n'étaient pas forcément plus petits que les Européens. Enfin bref, là, je ne m'étends pas. Donc c'est du social, très essentiellement. Je parle de stature moyenne, attention, c'est du social. Autre remarque au passage, on cite les statures, on est bien d'accord, adultes, à l'âge de 20 ans. Enfin, quasiment adulte, ça aussi on pourra en discuter. Il y a des différences de croissance physique entre aujourd'hui et autrefois. Enfin bref, ça c'est des problèmes de cuisine, on ne va pas entrer là-dedans. Ce que je veux dire, oui, donc c'est qu'on cite les statures adultes à l'année de naissance, puisque la stature, je dis bien moyenne, est principalement déterminée par des facteurs sociaux et économiques dans les toutes premières années de la vie, c'est-à-dire en gros entre la naissance et l'âge de 3 ans. Après, il y a une croissance qu'on appelle secondaire de l'adolescence, où là aussi ça peut être important. Donc, il y a deux périodes, je dirais, cruciales à prendre en compte. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit également que la stature est un indice synthétique de niveau de vie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener, ce n'est pas comme un indice économique, un PIB, qu'on pourrait ramener à l'année d'observation. Il y a pas, enfin, il y a une année d'observation, donc on la fixe arbitrairement à l'année de naissance, parce que c'est là, à la limite, que l'impact sera le plus important. C'est un indice démographique. Je dirais donc, bien garder en tête que la stature moyenne est un indice plutôt socio-économique. Alors pour vous expliquer un petit peu ça se mélange, le social et le biologique, le naturel, le génétique. Alors là, je me ferai une petite incursion du côté de la ville, parce que pour faire ce graphique, j'ai eu quelques difficultés, donc je ne l'ai fait que pour un espace urbain. Donc on est à Mulhouse, cohorte de naissance, première moitié du 19e siècle. Et donc j'ai représenté les statures par profession. Et à l'intérieur de chaque profession, on voit la distribution des statures individuel donc. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que si on prend les deux extrêmes, donc à l'extrémité supérieure sont les mécaniciens font en moyenne, on lit ça sur l'axe des abscisses, 1,69 m à peu près, là on a distribution normale justement, à l'intérieur de chaque profession, c'est-à-dire des distributions en cloche qui sont symétriques de part et d'autre de la moyenne, de la médiane et de la médiatrice. À l'opposé, donc les rattacheurs, eux font 1,59 m. Or, remarque au passage, ils ne font que 10 cm de différence, Mais ce sont des différences moyennes, c'est énorme. C'est comme si ici, dans la salle, alors on pourrait m'objecter, oui, enfin, il y en a un qui fait 10 cm de moins que l'autre, d'accord, mais c'est des différences individuelles. Pour qu'une population prenne 10 cm, il faut à peu près, s'il y avait croissance économique soutenue, continue, ce qui est encore une autre hypothèse qu'en histoire économique qu'on ne vérifie pas, il faudrait presque 100 ans. Donc la différence est énorme. Bon, là je mélange, je commence à m'emballer, mais sachant que la stature moyenne est fortement corrélée à la mortalité infantile, c'est pas anodin. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment d'énormes disparités dans la ville industrielle du début du 19e siècle. Donc je reviens à la principale idée de ce graphique, c'est que donc les différences de stature moyenne entre professions, c'est du social. En revanche, on voit bien qu'à l'intérieur de chaque profession, on a des distributions normales. Et autrement dit, là, on peut supposer que c'est quasiment que de la génétique qui joue, puisque on peut supposer que tous les rattacheurs touchent à peu près le même salaire, tous les mécaniciens touchent à peu près le même salaire. Donc cette distribution normale à l'intérieur de chaque profession, c'est en fait la distribution normale des gènes à l'intérieur de populations socialement homogènes. On pourra discuter l'hypothèse quand même tout à l'heure. Donc il y a bien de la génétique qui joue. Mais il faut bien voir qu'elle joue plutôt à l'échelle individuelle, inter-individuelle, que pour la comparaison de différents groupes sociaux. Or là, c'est à travers, je dirais, la société, une société donnée à un temps donné, mais bien évidemment, on pourra faire la même chose en comparant le même espace à différentes époques et voir donc l'évolution de la stature moyenne. Donc quelques périphrases, justement, qui permettent de définir ce qu'on voit à travers la stature moyenne aujourd'hui. Donc selon la terminologie de l'OMS, c'est un indice de malnutrition chronique. C'est-à-dire que c'est un indice qui est actuellement utilisé en médecine pour déterminer des états de malnutrition, donc dites chroniques, c'est-à-dire des malnutritions inscrites dans la durée. À l'inverse de la malnutrition aiguë, qui elle serait plutôt l'équivalent, enfin l'indice le plus courant de malnutrition aiguë, c'est le rapport poids-taille, l'indice de Quetelet. Puisque une fois qu'on a atteint notre taille adulte, s'il y a des situations de disette ou de famine, le rapport poids-taille va varier. En revanche, la taille, c'est en quelque sorte un fossile des conditions de vie durant les 20 premières années de la vie. Une fois qu'on a atteint sa taille adulte, même si on mange plus, après, bah, on va grossir, mais on va pas grandir. Ce qui est une chose intéressante, hein, parce que les ouvriers de la fin du 19e siècle en Europe étaient petits et gros, notamment, enfin petits et gros, toutes choses étant relatives, que leurs prédécesseurs du début du 19e siècle. Deuxième expression, c'est un indice de niveau de vie biologique. Alors ça, c'est quelque chose qui a été inventé dans les années 90, principalement pour convaincre les économistes qui pensaient que en fait la stature c'était du biologique, du génétique et pas du naturel, alors que les biologistes eux, étaient convaincus dès le début du bien fondé de l'histoire anthropométrique puisqu'ils étaient habitués à la plasticité du corps humain face aux conditions sociales. Et puis donc une dernière expression, c'est indice de nutrition nette. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, donc j'en dis pas plus, mais donc, elle est due à Jörg Batten dans sa thèse de 99. Donc par rapport aux indices économiques classiques, je pense par exemple au PIB par habitant, aux revenus, aux salaires réels ou nominaux, etc. Ce qu'on constate, ce ne sera pas l'objet de la présentation aujourd'hui, hein, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a des différences, différentes évolutions, même des évolutions opposées entre la stature et par exemple les salaires ou les PIB dans les pays européens ou enfin plus généralement du Nord au 19e siècle et au 18e siècle. Mais il ne faudrait pas y voir une contradiction avec tout ce que nous a appris l'histoire économique auparavant, mais plutôt donc une vision alternative. Ce sont deux visions différentes des niveaux de vie. Et d'autre part, donc ça je vous l'ai dit, un indice démographique qui est fortement corrélé à la mortalité infantile et donc à l'espérance de vie. Je ne reviendrai pas non plus là-dessus, mais c'est un élément qui me paraît très important, donc je me permets de vous le signaler. Un des facteurs, si ce n'est le facteur le plus important pour déterminer les disparités de stature, semble être l'alphabétisation. Donc dans tous les pays du monde, pour toutes les époques, alors toutes les époques L'histoire contemporaine, ça veut donc dire, enfin, je mords un peu sur la période moderne, mais ça veut dire donc on observe ça pour le 18e, 19e et 20e siècle. Il y a une corrélation entre l'alphabétisation et la stature. Donc ça, c'est vraiment dans tous les pays, hein, tous les continents confondus. Donc là, vous avez une illustration du phénomène. C'est pour, je reprendrai cette enquête tout à l'heure. Hein, un graphique construit d'après des données individuelles à l'origine. Donc on a fait des moyennes par arrondissement, 111 arrondissements. Et donc là, on a la génération née en 1848, et donc on constate qu'il y a un coefficient de détermination, hein, qui est assez élevé, 0,59. Donc plus les conscrits ont un taux d'alphabétisation élevé, plus en moyenne la stature s'élève. Et donc on pourrait, alors ça, c'est les premiers travaux qui ont interrogé cette dimension-là sont dus à Weir. Sur le cas français précisément, faire un lien entre alphabétisation, baisse de la fécondité. Hein, ce qui serait plus intéressant, c'est d'avoir l'alphabétisation des femmes, hein, pour la maîtrise de la fécondité. Alphabétisation, donc fécondité, baisse de la fécondité, donc, et du coup, in fine, il y a moins d'enfants par famille, et donc les enfants sont alors à la fois mieux nourris, mais aussi mieux soignés. Peut-être qu'ils ne sont pas obligés d'aller travailler, enfin bref, il y a plusieurs. Conséquences qu'on peut envisager. Et donc, à la transition démographique classique, on pourrait peut-être ajouter une dimension de transition physique, suite à la baisse de la fécondité. Je parlais de niveau de nutrition net, pour parler de la stature moyenne. Nutrition nette, ça se définit comme un bilan, nutrition brute moins dépense en énergie. Alors, on va reprendre l'équation. C'est simple au début, la nutrition brute, ce sont les apports en énergie. Autrement dit, c'est l'alimentation traduite en quantité et en qualité de nutriments. Alors, la qualité, c'est important parce que suivant qu'on a des aliments plus ou moins riches en protéines d'origine animale, les résultats vont pas être les mêmes, qu'on verra tout à l'heure. Alors, les apports en énergie, on peut aussi les saisir à travers les salaires. Et on peut les confronter donc au salaire. À travers les revenus non salariés, bon, bah, ça on en a parlé tout à l'heure, mais ça rejoint un peu ces mêmes préoccupations. Revenus du capital, bah, oui, je pensais au capital, notamment justement, tout ce qui, aussi bien pour les citadins que pour les ruraux. Et il y a aussi très important des questions d'organisation du marché sur lesquelles on reviendra un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire que l'organisation du marché peut jouer en faveur des citadins ou en faveur des ruraux. Suivant les époques auxquelles on se place. Je pense notamment qu'au début alors ça c'est une des grandes idées de John Komlos, hein, au début de l'intégration au marché, les citadins qui auparavant en gros consommaient sur place leurs aliments riches en protéines, les exportent et s'enrichissent, en tout cas d'un point de vue, je dirais, purement monétaire, mais leurs enfants du coup sont moins bien nourris. Est-ce qu'il ne se traduit pas forcément par un gain pour les citadins, puisqu'il y a des problèmes encore de pertes, hein, de transport, enfin bref. Et puis donc, autre élément de l'équation, ce sont donc les dépenses en énergie. Donc là, plus difficile à quantifier, faut bien l'admettre, hein, l'existence du travail des enfants, les conditions de travail. Donc là, c'est plutôt du côté des manufactures et des mines qu'on se place au 19e siècle. Le rôle des maladies. Alors, il y a des maladies à la campagne. On arrive à cerner le rôle des maladies à la campagne. Mais c'est surtout les villes qui retiennent l'attention au 19e siècle, avec une hyperdiversification des centres-villes. Donc, des marchés urbains qui ne sont pas encore très bien alimentés, alors qu'il y a une croissance démographique importante. Et donc, in fine, il n'y avait pas non plus, bien évidemment, de réseau, d'assainissement des eaux, de distribution d'eau potable, etc. Et donc, du coup, il y a des conditions épidémiologiques qui sont bien plus dégradées dans les villes que dans les campagnes. Et donc, ça joue plutôt pour les villes, hein. Mais on arrive quand même à voir l'influence, notamment des cultures irriguées, donc développement de la malaria. Dans un certain nombre de pays européens. Autre chose importante, donc, c'est l'unification microbienne du territoire. Donc, avec l'avènement notamment du chemin de fer, on peut avoir certes prospérité parce qu'il y aura un apport, mettons, d'engrais, ou exportation de produits agricoles et au retour, en cas de disette éventuelle, des blés qui arrivent à meilleur marché. Mais d'un autre côté, alors là on discutera d'hypothèses tout à l'heure, hein, avec le chemin de fer peut arriver aussi de nouveaux microbes, et donc la stature moyenne peut diminuer. Donc tout ça, ça définit le niveau de nutrition net, et on va un petit peu discuter donc ces hypothèses. Dernier point, John Komlos part de l'hypothèse que dans toute population, quelle que soit l'époque étudiée, l'écart type d'une population est de 6,86 cm. Ça me paraît un petit peu discutable, et on verra tout à l'heure justement que les dernières études d'histoire anthropométrique discutent cette hypothèse. Ce que je voulais mettre en regard, c'était donc en croissance économique moyenne, donc ça c'est plus le génétique, c'est le social, une population va grandir d'un millimètre par an. Donc tout ça pour que vous rendiez bien compte que les disparités de stature à l'intérieur donc d'une population sont essentiellement dues à la génétique, ça c'est absolument évident, et que là-dessus la société ne fait que calquer des... enfin ne joue hein, sur la stature que de manière marginale. Alors, le point de départ pour le cas français, c'est un paradoxe. Donc on a déjà vu le graphique tout à l'heure. Stature comparée des Néerlandais et des Français. Le paradoxe français, c'est que dans l'ensemble des pays industrialisés, à de très rares exceptions près, au XVIIIe et au XIXe siècle, on a une baisse de la stature moyenne. Donc là, par exemple, le cas anglais, enfin anglais plutôt britannique, qui nous montre, alors là, c'est presque le cas extrême, je dirais, hein, une baisse continue de la stature du milieu du XVIIIe siècle aux années 1860. Mais enfin, on pourrait montrer la même chose pour les États-Unis à partir du début du 19e siècle, enfin pour un grand nombre de pays européens. Donc paradoxe français, parce que la France est un des rares pays à ne pas connaître de baisse de la stature durant l'industrialisation, et cette absence de baisse, elle serait notamment due au fait que le pays va s'industrialiser, mais sans véritablement s'urbaniser. Donc là, il faut bien faire la différence entre urbanisation et industrialisation. Il y a aussi la précocité de la transition démographique qui joue. Donc on rejoint encore une fois l'histoire démographique, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il y a certainement d'autres facteurs que l'on pourrait étudier. Et donc, notamment ce que j'avais discuté dans ma thèse, c'était la question de savoir si derrière cette évolution nationale qui est très, très douce, hein, on voit que les Français prennent 2 cm en un siècle, est-ce qu'il n'y avait pas des disparités importantes au niveau régional? Donc pour ça, j'avais étudié 3 espaces ruraux et une ville. Donc dans ces 3 espaces ruraux, je vais brièvement vous présenter hein, de manière synthétique les résultats. Alors, j'avais pris des régions au profil socio-économique contrasté, de préférence, pour voir des évolutions précisément elles-mêmes contrastées. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que... Alors, tout d'abord, dans l'Alsace rurale. Donc là, on est dans l'arrondissement de Célestat. Donc, Célestat se trouve dans le Bas-Rhin, entre Strasbourg au nord et Colmar au sud. On a donc hein, les trois grands espaces écologiques traditionnels alsaciens, le Piémont Vosgien, la Plaine, et puis le Ride, le Grand Ride, les marécages du bord du Rhin. Donc, ce qu'on peut observer, c'est... Alors, donc, la moyenne nationale est en noir, hein. C'est une érosion globalement du niveau de nutrition net des Alsaciens durant la première moitié du 19e siècle. Cette érosion, toutefois, il reste nettement au-dessus de la moyenne nationale. Hein, donc, une région de micropropriété, de polyculture, mais qui rencontre quelques difficultés. Ces difficultés, on les retrouve. Là, je suis désolé, les couleurs sont inversées. Cette fois-ci, le Limousin est en noir. On les retrouve dans le Limousin. Or, le Limousin, il faut quand même que je précise, ce n'est pas tout le Limousin. Hein. Il s'agit d'une partie de l'arrondissement de Saint-Thyrier. Donc, c'est dans le sud de la Haute-Vienne et c'est, le Limousin sédentaire, archaïque. Enfin, j'aime pas tellement ce terme, hein, mais essentiellement agricole, rural, mais surtout agricole. Hein. Et une partie de l'arrondissement de Bellac. Donc là, au contraire, on est au nord de la Haute-Vienne. On est plutôt dans le Limousin maçonnant. Et donc, il y a un apport, il y a une ouverture sur l'extérieur. Enfin, ceci dit, donc, hein, on constate qu'il y a une dégradation. Alors, si on décompose hein, le trend, la baisse est encore plus accusée quand on prend que le Limousin sédentaire, l'arrondissement de Saint-Thyrier. Et donc une stature, hein, qui devient nettement plus petite que la moyenne nationale. Donc on a dans ces deux cas des corrélations négatives entre la croissance démographique et la baisse de la stature. Bon, elles sont négatives, mais elles ne sont pas significatives. Enfin, je suis désolé si j'emploie des termes un peu statistiques, mais enfin, je pense que tout le monde comprend. Et en revanche, pour le troisième espace étudié, qui lui est un espace dont on a parlé tout à l'heure, la Brie, l'arrondissement de Melun, la Seine-et-Marne, donc la grande plaine, céréalière du bassin parisien. Alors, préciser quand même qu'au début de période, il y a énormément de vignerons aussi, hein, dans cet espace-là. Il n'y a pas que de la grande propriété. Ceci dit, donc, or, si on met à part le début de période, on a une croissance anthropométrique qui est très sensible dans l'arrondissement de Melun, et dans l'état actuel de nos connaissances sur les différents pays européens, c'est la seule région où il y a une croissance dans la première moitié du XIXe siècle. Alors, je suppose que si on élargit, j'espère qu'on élargira l'enquête à d'autres régions, on pourrait retrouver peut-être la même chose, hein, du côté du Soissonnais, ou enfin bref. Donc une croissance qui est vraiment très importante, puisqu'elle équivaut en rythme à celle de la France des Trente Glorieuses. Et d'ailleurs, elle dure à peu près le même intervalle de temps, une trentaine d'années. Donc enfin globalement, pardon, on a une divergence, hein, anthropométrique entre régions dans la première moitié du XIXe siècle. Et dans un deuxième temps, si on regarde ce qui se passe durant la Grande Dépression, la fin du XIXe, je reviens sur le cas alsacien. La Grande Dépression est marquée. Or là, ce n'est pas l'année de naissance, aux années d'examen. Désolé, je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi et comment j'en suis arrivé à cette conclusion. Mais, donc il y a une baisse de la stature des ruraux alsaciens, donc à l'année, encore une fois, d'examen, qui est causée par le choc de la Grande Dépression. Mais il y a un redressement quand même, hein, qui se dessine à partir de la fin des années de naissance 1860, donc année d'examen 1880. Le choc est beaucoup plus rude dans la Brie. Là, on a une décroissance d'une vingtaine d'années, de 2 cm à peu près. Donc, c'est vraiment à l'échelle, hein, de l'histoire anthropométrique, c'est vraiment une décroissance sensible. Elle sera surtout marquée, d'ailleurs, pour ceux qui sont le plus au contact avec le marché, c'est-à-dire pour les commerçants et les agriculteurs. Alors là, je suis désolé, enfin les agriculteurs indépendants, j'entends, les agriculteurs exploitants. Les sources ne nous donnent pas vraiment de. Enfin, le terme, c'est cultivateur. Il y a peut-être, une dizaine de fermiers sur 140 ans. Il n'y a aucune indication sur la hiérarchie à l'intérieur de ces cultivateurs. Mais c'est les groupes professionnels les plus touchés. Et donc, il semblerait que l'Alsace se rétablit plus précocement parce que on est déjà dans une région de polyculture et qui va se tourner plutôt vers l'élevage que la Brie. Mais la Grande Dépression ne signifie pas dépression anthropométrique pour toutes les régions, hein, puisqu'on a une belle croissance dans le Limousin, et d'autant plus remarquable que la transition démographique est beaucoup plus tardive dans le Limousin qu'en Brie ou qu'en Alsace rurale. Autrement dit, il y a croissance démographique et croissance anthropométrique à la fin du 19e. Et alors les mécanismes, là aussi, c'est en comparant les taux de croissance par profession, hein, ce qui tire vers le haut la croissance limousine, c'est davantage l'agriculture que les migrations de maçons. Donc on a une réussite qu'on peut aussi voir à travers la corrélation, hein, entre le poids des bœufs, que j'ai récupéré via les mercuriales, et la stature des conscrits limousins. Hein, donc il y a une corrélation. Alors, je n'ai pas mis le quotient de détermination, mais il est élevé. Donc ça ne veut pas dire que les conscrits limousins mangent plus de viande de bœuf, attention, hein, ils sont encore quasiment végétaliens, mais ça veut surtout dire qu'ils gagnent plus en exportant leurs bœufs vers les marchés urbains. Une petite incursion vers le début du XXe siècle. Pour le XXe siècle, donc voilà, pour l'Alsace rurale, on voit que ça se poursuit jusqu'aux années de naissance 1920, cette croissance. Et puis, même chose pour les Limousins et même chose pour les Briards. Ce qui est intéressant, donc, c'est que la croissance est commune aux trois espaces, mais en revanche, les rythmes sont différents et sont très intéressants. La région la moins dynamique, c'est la Brie. Et si on décompose le trend en isolant les actifs de l'agriculture, on se rend même compte que ce sont les seuls dont la stature stagne au début du XXe siècle, alors que toutes les autres catégories, Alsace rurale, Limousin ou Briard, non agriculteurs, sont en croissance. Donc ça montre bien les difficultés des régions de grande culture pour la première moitié du XXe siècle. Donc voilà un petit peu pour les évolutions générales. Le deuxième point, enfin le troisième point en l'occurrence que je voulais évoquer, c'était les facteurs explicatifs des évolutions constatées. Alors là-dedans, pardon, je vais surtout mettre l'accent sur les écarts de distribution, donc les écarts à la moyenne. Or, un petit schéma ancien, mais qui me paraît tout à fait significatif à ce sujet, tiré de l'étude sur les Savoyards, il manque le S d'ailleurs, enfin, j'espère que je n'ai pas laissé d'autres énormités de ce genre-là, étude sur les Savoyards donc d'un médecin, Jules Carré, qui date de 1882. Donc, l'histogramme de gauche nous montre la stature des conscrits savoyards à deux époques différentes, 1811-1812. Or là, ils n'étaient pas toisés à l'âge de 20 ans révolu, conformément à la loi. Il y a une entorse à la loi, et ça explique une partie du phénomène, et l'époque, donc 1872-1879. Or, ce qu'on peut voir, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure, c'est que la distribution est toujours normale, mais c'est l'ensemble de la distribution qui s'élève. On peut affiner en regardant uniquement les conscrits de gauche des années donc 1811-1812. La loi normale nous laisserait attendre qu'on ait 2,5% des effectifs à moins deux écarts-types de la moyenne. C'est une des propriétés de la loi normale. Or, si on s'amuse à calculer le pourcentage, ce n'est pas 2,5%, c'est 10%. Donc on a une énorme surreprésentation des petits chez les conscrits savoyards. Or, bien évidemment, on peut penser tout de suite aux crétins. Des Alpes et à Balzac. Effectivement, ce sont bien les crétins des Alpes qu'on observe là, et qu'on observe beaucoup moins en 1872-79. Donc on parlait de maladies, ben voilà, les maladies, elles sont là. Donc tout ça pour vous dire que, alors bien évidemment, la normalité de la distribution, c'est quelque chose qui est très intéressant pour Comlos, enfin et pour moi aussi, hein, quand on a des échantillons tronqués, quand on a uniquement des sources, non pas conscriptionnelles, mais militaires, donc de soldats, et non pas de conscrits. Et qui a une taille minimale légale. Parce que ce qui nous intéresse, c'est la distribution, enfin c'est la taille moyenne, c'est pas la taille moyenne d'un échantillon tronqué. Donc pour reconstituer la taille moyenne, on pose comme postulat la normalité de la distribution. Mais vous voyez que c'est pas le cas. Et donc, ce que j'aimerais discuter maintenant, c'est ce problème de la normalité de la distribution. Oui, alors je vous ai cité Brian Ahern, puisque c'est un des premiers qui s'intéresse à ces problèmes hein, de méthodologiques et sociaux, à la fois de remise en cause de ce postulat de la normalité de la distribution. Donc, ce que j'aimerais évoquer, c'est une lecture kuznetsienne de l'histoire anthropométrique. Alors, j'explicite un petit peu mon propos. La loi de Kuznets, donc, dit que... c'est un économiste américain. Hein, donc, une loi énoncée dans les années 50, dans un contexte que vous connaissez. Donc, il y a toute une idéologie derrière. Donc, elle dit que les inégalités, durant la révolution industrielle, vont suivre une courbe en U inversée. Donc, au début, les inégalités, au début de l'industrialisation, vont fortement augmenter. Ensuite, elles vont se maintenir à un niveau élevé durant un certain nombre d'années. Et puis ensuite, elles vont diminuer. Et donc, est-ce qu'on observe ça avec l'anthropométrie? Donc là, je reprends simplement les résultats de ma thèse hein, sur les trois régions que j'évoquais. Alors, de fait, on constate que plus la région est pauvre, ou plus la région, enfin pas plus, mais quand la région est en situation de déclin statural, les écarts entre professions augmentent. Alors, ce que j'entends par écart entre professions, c'est j'ai retenu uniquement les professions où il y avait plus de 100 conscrits toisés. Enfin, ça fait quand même un certain nombre de professions. Et quand je parle d'écart, c'est deux choses. C'est à la fois l'écart type entre professions et l'écart maximum, c'est-à-dire l'écart entre la profession qui a la stature moyenne la plus élevée et la profession qui a la stature moyenne la plus basse. Donc ces deux types d'écarts augmentent dans les régions les plus pauvres, enfin sont plus importants dans les régions les plus pauvres ou dans les régions qui sont en situation de déclin statural par rapport à la période précédente ou suivante. Donc ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que l'inégale distribution des nutriments va jouer sur la moyenne en la tirant vers le bas. Puisque c'est là, je vous ai présenté la chose dans un rapport logique, hein, mais qu'il faut en fait inverser. Et autrement dit, apport calorique, je pourrais le dire autrement, apport calorique moyen identique. Si ces apports sont mal répartis, enfin sont répartis de manière inégalitaire dans la population, alors ça aura une influence négative sur la stature moyenne. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure, si j'ai un apport qui est toujours de, mettons, 2300 calories par habitant en moyenne, mais si les riches mangent plus, ils ne vont pas grandir davantage, ils vont grossir éventuellement, c'est pour ce qu'ils mangent. Au contraire, si apport calorique identique, ma distribution de nourriture se déplace vers le bas et les pauvres mangent un peu mieux et les riches un peu moins bien, eh bien la stature moyenne va augmenter. Donc c'est une question de répartition. Et inversement, plus la région, donc je repars toujours de mes trois régions, hein, plus la région est riche ou si la région est en situation de croissance anthropométrique, alors les écarts, toujours même chose, écart type ou écart maximum, entre professions diminuent. Ce que je vous disais auparavant, donc les écarts d'apport nutritionnel diminuent et donc la moyenne augmente. Avant-dernière chose que j'aimerais préciser sur ce sujet, donc si on considère l'ensemble de la période, 1780-1920, hein, puisque c'est la période que je considère, les écarts entre donc la profession qui est la stature moyenne la plus élevée et la profession qui est la stature moyenne la plus faible. Ces écarts vont diminuer, mais vont surtout diminuer par rattrapage des professions les plus qui ont la stature moyenne la plus petite par rapport à la moyenne. Donc, et en revanche, l'écart entre la moyenne et les professions à la stature moyenne la plus élevée reste constant. Autrement dit, on a, c'est plutôt kuznetsien, hein, un rattrapage, un resserrement des écarts, mais qui se fait par le bas. C'est-à-dire qu'il y a une réduction des inégalités, encore une fois, en termes d'apport nutritionnel. L'écart à la moyenne reste le même. Donc il y a réduction des inégalités maximales, si vous voulez, et par le bas, mais il n'y a pas de réduction des inégalités moyennes. Autrement dit, bah, ça infirme plutôt la théorie de Kuznets, puisque il y a maintien des inégalités entre 1780 et 1920. Encore une fois, des inégalités moyennes, pas des inégalités entre la profession la plus défavorisée, les domestiques agricoles, hein, pour ne pas les citer, et la moyenne. Donc tout ça pour vous dire que le postulat de la loi normale, d'un point de vue anthropométrique, est discutable, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais que la loi de Kuznets, hein, comme toute loi économique, elle-même est discutable. Donc tout ça m'a incité à aller voir ce qui se passait du côté des apports en nutriments. Et donc on a constitué, alors pas tout seul, parce que j'ai un dossier un fichier de 81 605 données individuelles réparties donc sur ces 111 arrondissements. Donc ça, c'est grâce aux élèves ingénieurs de l'UTBM qui font des petites recherches, et je les en remercie. Enfin, ils le font, ils sont passionnés par ce qu'ils font, donc c'est très bien. Et donc, ça permet d'avoir une grosse base de données, donc à l'échelle individuelle, sur les conscrits français nés en 1848, que j'ai confronté avec l'enquête agricole de 1852 à l'échelle des arrondissements. Or, je voulais le faire à l'échelle des cantons pour des questions de disponibilité de sources, dont on pourra reparler tout à l'heure, c'est pas possible. Et le recensement de la population de 1851. Alors, qu'est-ce que je voulais tester? Je voulais voir justement si j'augmentais les apports nutritionnels de la population, la part de la population la plus défavorisée, est-ce que ça avait plus d'impact sur la stature moyenne que si on augmentait la disponibilité moyenne de la population. Donc, hein, la ration, est-ce que si on augmente la ration des plus pauvres, alors la ration des plus pauvres, c'est quoi? Je l'ai calculé d'après les budgets d'une famille de 5 journaliers que j'ai traduit en nutriments. Alors, avec des structures de consommation locales. C'est-à-dire que, enfin bref, je ne vais peut-être pas m'étendre là-dessus. Et donc, est-ce que ça a plus d'influence que j'augmente du même nombre de calories ou de protéines, la ration, non pas des plus défavorisés, mais la ration moyenne, hein? Donc, la réponse, c'est oui. En moyenne, on peut considérer... Or, bon, bien évidemment, la première chose, c'est que les apports en nutriments ont une influence positive et statistiquement significative sur la stature. Bon, ça, c'est heureux, hein. Plus on mange, plus on devient grand. Au 19e siècle, c'est logique. Mais la deuxième chose, c'est que les statures moyennes sont environ deux fois plus sensibles aux variations des apports nutritionnels calculés donc d'après le budget des familles de journaliers que le même apport en calories, hein, la même augmentation en calories ou en protides, mais de la moyenne. J'espère que je suis clair. Et donc, ça confirme bien l'importance de la distribution des apports alimentaire et même nutritionnel, là, en l'occurrence, hein, sur l'augmentation de la stature moyenne. quand les plus pauvres mangent mieux, la stature augmente davantage, hein, que quand c'est la moyenne qui augmente. Le troisième point, c'est que on est dans une France encore de quasi-végétalien. Donc sur les 100 arrondissements, on a la moitié des protéines animales qui proviennent du lait. Et pour les journaliers, c'est même plus de 60%. Donc on pourrait bien évidemment, ça c'est l'hypothèse lait, hein, ce qu'on appelle l'hypothèse lait qui a été testée par Batten, on pourrait se demander donc si, alors il l'avait testé à l'échelle du département, est-ce qu'à l'échelle de l'arrondissement ça marche aussi? Or, toutes choses étant égales par ailleurs, comme on dit en statistique, pour gagner 1 cm de stature à l'échelle de l'arrondissement, il faut que la ration moyenne, donc hein, pour les habitants de l'arrondissement, en lait, augmente de 36 centilitres de lait entier cru par jour. Donc ça fait beaucoup, vous me direz, hein, mais voilà, hein, c'est ce qu'on obtient. Et donc, dernier point sur cette enquête. Qui est encore en cours, c'est, je dirais, les enseignements méthodologiques qu'on peut en tirer, à savoir ben, la grande fiabilité de l'enquête agricole de 1852, notamment dans sa partie dite économie rurale, donc d'où est tiré les budgets d'une famille de 5 journaliers. La question avait autrefois été soulevée par Michel de Monnet, il avait répondu par l'affirmative, je dirais qu'on peut encore être plus affirmatif aujourd'hui. Les estimations qui sont faites par les notables locaux, parce que là, bon, on a enfin une partie des bordereaux cantonaux. C'est vrai que des fois on a des réponses du genre pour le vin, consommation, c'est il boit sa propre piquette, etc. Enfin, ça pose la question de savoir comment ces données ont été collectées, etc. Mais je dirais c'est du pifomètre de notable, mais c'est de l'excellent pifomètre de notable puisque ça explique mieux les disparités de stature dans la France de cette époque-là que les colonnes savamment alignées de production, de consommation, etc. Une remarque aussi au passage, c'est que le même type d'approche a été tenté sur des données contemporaines, c'est-à-dire que il y a des études qui contrôlent la fiabilité des rations alimentaires calculées par la FAO par des données anthropométriques. Donc en fait, ce n'est qu'une fois de plus hein, une application méthodologique, mais pour l'histoire de méthodes employées par l'économétrie. Le dernier point de mon propos, c'était la question de l'intégration au marché, donc, et son impact éventuel sur les inégalités anthropométriques. Donc je reprendrai l'expression de célèbre de Mulliez de 1979, hein, le blé mal nécessaire. Il se posait la question de la fin de ce blé mal nécessaire. Or, j'explicite un petit peu ce que c'est que le blé mal nécessaire, peut-être. Donc c'est l'idée que je dirais l'économie et le régime alimentaire français des Français est tributaire du blé jusqu'au 19e siècle, avec la fin du blé mal nécessaire, qui a lieu donc dans la première moitié du 19e siècle. Enfin, là, je schématise à l'extrême, je pense que l'économiste aura certainement peut-être des remarques sur ce sujet. Mais donc conversion partielle à l'élevage dans la première moitié du 19e siècle des régions pionnières, je dirais, et donc fin progressive du diktat économique et alimentaire du blé en France au début du 19e siècle. Donc est-ce que cette fin du diktat est observable par l'histoire anthropométrique? Alors d'abord, justement, j'évoque un petit peu les travaux de John Komlos. Ce blé mal nécessaire, ben on peut le lire à travers ce graphique. Donc il y a une corrélation. Alors elle est négative, attention, hein, parce que l'échelle de droite est inversée. On va de 100 en bas à 20 en haut. Hein, c'est comme ça qu'on fait chez les économistes. Donc la corrélation en fait est négative. Hein, les courbes sont en miroir. Et donc plus le prix du blé augmente, plus la taille des Français diminue. Donc ça pour le 18e siècle. Donc ça, ce ne sont pas mes travaux, hein, j'insiste bien là-dessus, ce sont les travaux de John Komlos. Cette relation, on peut remonter un petit peu plus loin, il y a une corrélation positive entre la température et la stature. Plus la température augmente, les rendements céréaliers augmentent, donc les prix baissent et donc la stature augmente. Hein, donc on a une corrélation positive, ce qui est logique. Donc quand est-ce que cette relation prend fin? Donc ça, c'était les premiers travaux que j'avais faits sur l'histoire anthropométrique. La relation est valable pour la moyenne des Français, ce serait plutôt celle-là, donc en l'occurrence. Hein. La relation est valable pour la moyenne des Français jusqu'à la cohorte de naissance 1834, et encore entre 1835 et 1847, la corrélation reste importante et significative avec les prix réels du blé et la part des réformés pour défaut de taille. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que de montrer qu'après 1834, ce ne sont que les plus petits. Les réformés pour des fauteuils font moins d'1,57 m. Ce ne sont que les plus petits qui sont sensibles aux variations du prix du blé. Et donc après, ça s'estompe. Et donc on voit bien qu'il y a une transition, mais je dirais progressive. Hein, d'abord, la moyenne se détache de l'influence des prix du blé, puis seulement la proportion des réformés pour des fauteuils. Et puis, j'ai peut-être regardé l'heure, je ne sais pas. Oui, d'accord. Donc, j'évoquerai simplement l'influence du chemin de fer dans cette disparition de corrélation entre la stature et les prix du blé, puisque bien évidemment le chemin de fer est la grande innovation qui alors, bon, ça, on pourrait en discuter largement. Hein. Est-ce que ça bouleverse tant que ça l'organisation du marché au XIXe siècle? Mais bref, c'était mon hypothèse de départ. Alors, l'influence des chemins de fer, elle a déjà été testée aux USA, notamment par Michael Haynes et par ses collaborateurs en 1998. Et la conclusion de Michael Haynes, je reviens sur mon histoire d'unification microbienne, était un petit peu paradoxale. C'était qu'il y avait une influence négative des chemins de fer sur la stature. Et alors, cette influence négative, il l'expliquait par l'unification microbienne, c'est-à-dire que là où il y a le chemin de fer, d'accord, il peut y avoir éventuellement des départs vers la ville avec une économie de transfert en retour, il peut y avoir une importation d'engrais, pourquoi pas, ou de machines agricoles, enfin bref, et surtout une exportation de produits vers l'extérieur, et donc un enrichissement, mais il y a aussi donc des microbes qui arrivent, et donc finalement, il y a plus de maladies, et les nutriments qu'on dépense pour lutter contre la maladie, on ne les a pas pour grandir. Et puis aussi un deuxième phénomène qui est complémentaire et qu'on ne peut pas vraiment dissocier, c'est bien là le problème, c'est que si j'exporte davantage, mettons, de lait ou de viande, j'en mangerai peut-être moins. Et donc, finalement, le niveau de nutrition nette diminue peut-être au début de l'intégration au marché pour les espaces ruraux périphériques, en tout cas. Ça, c'est des choses qu'on observe dans différents pays. Alors, le problème, quand même, de l'étude de Haynes, c'est que cette relation, elle est observée à l'échelle des counties, enfin des counties plutôt, et il faut quand même rappeler qu'un county américain, c'est l'équivalent d'un département français. Autrement dit, on peut quand même se poser la question, est-ce que mes conscrits, enfin pas des conscrits, mais est-ce que les individus plus petits du county vivent forcément à proximité de la ligne de chemin de fer? Ça reste à prouver. Et d'autre part, il y a une deuxième question quand même qui peut être soulevée, c'est le contexte économique et démographique états-unien qui est extensif, c'est-à-dire que l'unification microbienne a lieu par le chemin de fer, mais en Europe, c'est une autre histoire puisqu'on est dans un système beaucoup plus intensif et donc on peut penser que l'unification microbienne a déjà eu lieu quand le chemin de fer arrive. Donc en fait là, c'est les résultats que je présente, c'est avec à partir de la même base de données que précédemment, hein, les 80 605 conscrits. Simplement, on a peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, il y a un petit problème méthodologique, je dirais, dans mon approche, c'est que toutes les variables ne sont pas observées à la même échelle. La variable chemin de fer que j'observe à l'échelle du canton vient peut-être en fait corriger des variations qu'on a à l'intérieur des arrondissements concernant les apports nutritionnels, puisque les apports nutritionnels, on ne peut les calculer qu'à l'échelle de l'arrondissement. Autrement dit, il y a un problème d'unité écologique en quelque sorte dans l'analyse. Or, ceci dit, je vous présente bien des résultats uniquement pour la campagne. Hein. Pour la ville, c'est notre histoire, on peut peut-être en reparler tout à l'heure, les bienfaits de l'exportation des campagnes vers les villes. Mais donc, pour la campagne, j'ai testé la variable chemin de fer pour deux périodes. Donc, je vous rappelle que les conscrits sont nés en 1848. Donc j'ai testé pour, alors toutes choses étant égales par ailleurs, hein, c'est-à-dire rapport nutritionnel, alphabétisant, etc. Donc j'ai testé pour l'état du réseau de chemin de fer en 1853 et en 1868. Donc 53, c'est la petite enfance des conscrits. Donc on voit qu'il y a, je ne sais plus exactement combien, mais c'est entre 10 et 20% de cantons desservis par les chemins de fer. On voit qu'en 1868, c'est déjà nettement plus. Hein, forcément, c'est la grande période sous Napoléon III de la construction du réseau ferré. Alors, quoi qu'il en soit, la conclusion, c'est que aussi bien pour... ce qui est intéressant aussi, c'est que le réseau de 1868 n'est pas du tout le même que celui de 1853. Il y a une large diffusion. Donc, la conclusion, c'est que la présence du chemin de fer va augmenter la stature de l'ordre d'un demi-centimètre. Alors vous allez me dire, un demi-centimètre, c'est pas grand-chose. Je vous rappelle que la stature des Français augmente de 2 centimètres seulement, mais c'est déjà beaucoup par rapport aux autres pays, au 19e siècle. Autrement dit, ça pourrait expliquer un quart de la croissance séculaire. Et d'autre part, le résultat, ce demi-centimètre, on le retrouve aussi bien pour 1853 que pour 1868. Ce qui voudrait dire, dans le cas de 1868, que l'impact du chemin de fer se fait sentir très rapidement. Elle est modeste, finalement. Enfin, il faut bien dire ce qui est un demi-centimètre, mais elle se fait sentir rapidement. Hein, autrement dit, les changements induits par le chemin de fer seraient rapides et positifs. Oui, bon, ça, c'est pas à peine que je vous le montre, puisque voilà. Donc, la conclusion sur tout cela, eh bien, c'est que on a pu montrer le rôle important joué par la répartition des apports nutritionnels dans la détermination de la stature moyenne, et ce, par différents canaux. Donc, on a pu évoquer la disparité entre professions, le rôle des prix alimentaires, et notamment des prix du blé. Le rôle inégal joué par, d'une part, les budgets populaires et les disponibilités moyennes de l'autre, et également par l'innovation technique que représente le chemin de fer. On a pu observer aussi qu'il n'y avait pas de linéarité dans l'amélioration du niveau de nutrition net, même si globalement l'intégration au marché se traduit par justement une augmentation de ce niveau. Mais on a vu que ce n'était pas un phénomène, non, qui était linéaire, qui avait des périodes de recul, notamment en Brie ou en Alsace rurale. Et puis, en ouverture, c'est ce que Jean-Marc évoquait tout à l'heure, je pense qu'il serait intéressant. Alors, le chantier actuellement en cours, c'est l'AOF, l'Afrique occidentale française, avec des collègues anglais, parisiens, et le chantier encore ultérieur, enfin là, j'ai vraiment les tout premiers résultats, c'est pour ça que j'en ai pas parlé aujourd'hui. Donc pour les années 1880-1940, et puis le chantier suivant, ce sera l'Algérie. Voilà. Mais avec là, bien évidemment, des problématiques plus spécifiques. Hein. Il n'y a pas que l'intégration au marché. Il y a bien évidemment surtout le poids de la colonisation et qu'il faut tâcher d'évaluer avec des variables adéquates. Voilà.